Le journal Olivier Zanot, bonsoir.
Bonsoir. Plus de transparence pour limiter l'augmentation des loyers. C'est la demande de l'initiative de l'ASLOCA qui sera soumise au peuple bernois le 28 septembre. Cyprien Louis, président du comité d'initiative, nous explique en ouverture de ce journal comment la transparence peut peser sur les prix. L'heure est au bilan après le violent orage d'hier. C'est surtout la région biennoise qui a été touchée. Les dégâts y sont importants. Le festival, plus qu'il, lui aussi, a été rudement frappé. Vous l'entendrez. À Malray, après la rave party illégale de ce week-end, l'heure est aux questions. La police n'a pas pu empêcher la tenue de la manifestation ni l'interrompre. Mais que peut-on faire concrètement? Le débat se déplacera prochainement dans l'arène politique. Une interpellation au Grand Conseil a été déposée ce dimanche. Après les remous d'hier, le ciel, lui, retrouve des couleurs estivales. Il se dégagera progressivement ce soir pour une suite de semaines ensoleillées, un peu moins chaud que ces derniers jours, avec un poil de bise demain, mais un mercure qui atteindra quand même les 24 à 27 degrés. La transparence doit permettre de limiter les hausses des coûts du logement. C'est ce principe qui guide l'initiative cantonale sur les loyers. Ce texte de l'ASLOCA, Association de défense des locataires, sera soumis à la population bernoise le 28 septembre. Il entend obliger les propriétaires à déclarer le montant payé par les anciens résidents lors des situations de pénurie de logement. Les hausses éventuelles devraient aussi être justifiées. Le comité qui soutient le texte regroupe une large alliance, parmi eux les Verts bernois. Son président nous explique en quoi la transparence pourrait permettre de limiter les hausses de loyers. Cyprien Louis.
Ce formulaire pour plus de transparence, en fait, il permet d'appliquer le droit des locataires qui est déjà en théorie applicable, parce qu'aujourd'hui, le locataire peut essayer de se battre contre un loyer qu'il estime abusif. Mais pour cela, c'est beaucoup mieux d'avoir une référence, c'est-à-dire de savoir combien payait l'ancien locataire. Et c'est une donnée qui manque actuellement aux locataires. Et c'est ce qui pousse certains locataires à ne pas entraîner les démarches. On voit dans les cantons qui ont déjà ce processus en place qu'il y a une hausse des réclamations ou des procédures engagées et aussi une diminution notable des prix des loyers. Donc c'est vraiment pour lutter contre des loyers abusifs et puis pour réduire le prix des loyers dans l'ensemble du canton.
Mais on voit, hein, les loyers peuvent évidemment évoluer, aussi augmenter en fonction, notamment, on l'a vécu il n'y a pas longtemps, hein, des coûts de l'énergie qui peuvent aussi augmenter. Est-ce qu'on pénaliserait pas aussi les propriétaires dans ce genre de cas ?
Non, alors le but, c'est pas de pénaliser les propriétaires, c'est simplement de demander aux propriétaires d'expliquer les hausses des loyers. Il y aura forcément toujours des hausses, c'est aussi important que les propriétaires puissent continuer d'investir dans leur logement pour les améliorer, notamment voilà, pour les isoler d'un point de vue énergétique. Donc c'est simplement, on demande que toutes les hausses doivent pouvoir être expliquées. Je pense que c'est important. Et ça va aussi peut-être entraîner les propriétaires à réfléchir plus peut-être à la hausse en fait, qu'ils vont mettre en place et peut-être donner un peu moins de place à la arbitraire. Donc je ne pense pas que ça soit une démarche qui va défavoriser grandement les propriétaires.
Cyprien Louis, président des Verts bernois, répondait à Anthony Montandon. En dehors des écologistes et de l'ASLOCA, l'alliance derrière cette initiative regroupe notamment le Parti socialiste, le Parti évangélique, l'Union syndicale bernoise ou encore les coopératives d'habitation Bernsoleur. Arbres couchés et tuiles sur les routes. Après les grosses intempéries d'hier, l'heure est à l'inventaire des dégâts et aux réparations. Les explications de Colline Grasset.
L'orage de dimanche après-midi aura fait un blessé à Nidau, plusieurs arbres déracinés et renversé les crayons du gymnase. Mais pour la ville de Bienne, il est encore trop tôt pour estimer précisément l'ampleur des dégâts. Les priorités sont ailleurs, selon Roger Racordon, responsable du département des infrastructures.
Il y a plusieurs priorités. D'un côté, c'est vraiment de déblayer les rues où c'est qu'il y a des blocages avec les arbres tombés. Ça, c'est une des priorités. L'autre priorité, c'est de vraiment regarder où c'est qu'il y a encore des dangers. Est-ce qu'il y a des arbres qui sont déracinés, mais pas encore tombés, ou bien est-ce qu'il y a des branches qui sont encore dans les arbres et puis qu'il faut sécuriser des surfaces supplémentaires.
Tout le service espace vert de la voirie est mis à contribution aujourd'hui avec l'aide des pompiers et de la bourgeoisie de Bienne pour la zone de la plage. Parmi les conséquences des intempéries, le festival de cirque et des arts de la rue Pluskil a dû aussi évacuer le terrain du Pré-Neptune dimanche après-midi, puis annuler la fin de la journée. Ceci a provoqué un gros manque à gagner pour l'organisation qui remet même en question le futur de Pluskil, explique Nina Pigné, directrice artistique du festival.
Absolument. Et c'est ce qu'on dit et on défend, et on n'est pas les seuls en Suisse à défendre ça, c'est qu'on est dans une extrême précarité en étant en plein air. On est vraiment dépendant de la météo et cette année, c'est l'exemple parfait de la fragilité de ce système, quoi, qui repose quasi exclusivement sur les entrées propres.
Le festival lancera un appel à soutien dans les prochains jours.
10 mm de pluie en 10 minutes, enregistrés à Macolin, et des vents qui ont frisé les 130 km/h à la station de Grange. L'orage d'hier après-midi n'est pourtant pas qualifié d'exceptionnel par Météo Suisse, malgré les lourdes conséquences au niveau local. Mehdi Matou, prévisionniste à Météo Suisse, nous explique d'où venait cette cellule orageuse.
Il faut un élément déclencheur pour que les orages puissent partir. On a les ingrédients initiaux qui doivent être présents et après un élément déclencheur. L'élément déclencheur d'hier, c'est le passage de cette zone frontale, donc qui est remontée dans un courant de sud-ouest depuis le milieu de la France à peu près jusqu'à chez nous. Et après, au fur et à mesure, avec les ingrédients qui sont présents localement, ça permet la traduction en fait en des phénomènes plus ou moins violents. Et donc hier, on avait ces vents violents en altitude, l'humidité et la chaleur dans la région de l'arc jurassien qui se sont cumulés ensemble et qui ont permis donc la mise en place d'orages relativement violents.
Un dossier réalisé en collaboration avec nos collègues de Télébilingue et du Journal du Jura. La ville de Bienne recommande encore aux citoyens de respecter les barrières et de ne pas s'attarder inutilement dans la forêt ou sous les arbres. La rave party organisée ce week-end sur les hauteurs de Malraix laisse derrière elle de nombreuses interrogations. Les agriculteurs de la place ont partagé leur sentiment d'impuissance quand des centaines de véhicules ont investi le pâturage La Vertejoue dans la nuit de vendredi à samedi. Impuissance et frustration de constater que la police n'a rien pu faire pour empêcher ou interrompre la manifestation illégale. Écoutez le président de la bourgeoisie de Malraix, Laurent Blanchard.
Nous-mêmes, si on vient brûler des branches, entretenir le pâturage boisé, on reçoit une amende de 500 francs si on fait un feu. Et puis là, il y a 2000 fêtards qui viennent illicitement. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne joue plus à ce niveau-là.
Encore une fois, en discutant avec les gens-là, on vous parle de dédommagement possible, de vous donner de l'argent et tout. Mais finalement, pour vous, ce n'est pas une solution quand même acceptable?
Non, ce n'est pas la solution. Alors, de l'argent pour la perte de fourrage, ok. Mais finalement, c'est toute une vallée qui est touchée parce qu'il y a de la musique tout un week-end, il y a du bruit tout un week-end. Si j'accepte, finalement, ça veut dire que je cautionne. Donc je n'ai accepté aucun argent. Ma foi, la perte de fourrage est là. On va quand même, on espère que la sécheresse ne vienne pas et que l'herbe va revenir, c'est sûr. Il faudra un peu plus de temps. Mais si c'est au moins rangé, pas trop de déchets, on est déjà finalement content comme ça.
Laurent Blanchard et la bourgeoisie de Malraix envisagent une plainte pénale contre les organisateurs. Du côté de la politique, Anne-Caroline Graber a déposé hier une intervention au Grand Conseil. La députée UDC s'interroge surtout sur les moyens dont dispose la police pour intervenir dans de telles situations, du moment que le dialogue est sans issue. Anne-Caroline Graber.
Une fois que la rave party a démarré avec toute l'atmosphère un peu électrique qui peut l'accompagner, eh bien, on se rend compte que la médiation atteint très très vite ses limites et on peut vraiment craindre que si on ne mène pas des réflexions sur le recours à d'autres mesures, par exemple le renseignement, la surveillance, bloquer l'installation de ces ravers, eh bien, on doive finalement constater que le scénario du week-end passé va se reproduire. Et pour moi, il est vraiment intolérable de s'habituer à ça. On ne peut pas s'habituer à voir les policières, les policiers être blessés, à devoir reculer finalement. Et puis c'est l'état de droit qui perd, c'est la garantie du droit de propriété qui recule. Et pour une partie importante de la population, il faut quand même faire attention aussi à ça. C'est de nature à porter atteinte à leur attachement à la démocratie libérale parce que ça donne une impression de laisser aller, une impression d'impuissance. Ça peut orienter des personnes vers un soutien à des politiques qui seraient pas de nature démocratique libérale.
Les rave parties ne sont pas accueillies partout de la même manière. D'un pays à l'autre, on oscille entre des extrêmes de tolérance bienveillante et de forte répression. Anthony Montandon.
En Suisse, le cadre dépend du canton, mais en général, les raves doivent être déclarés et autorisés. Le problème étant que le concept de free party ou fête libre s'affranchit justement de ces obligations administratives. La police est alors mobilisée dans certains cas, mais son intervention est souvent limitée. En novembre 2021, par exemple, au Breuleu, les forces de l'ordre ont renoncé à user de la force pour des raisons de proportionnalité. Elles voulaient ainsi éviter que la situation ne dégénère ou que les festivaliers ne prennent la route en urgence en risquant de provoquer des accidents. La police fribourgeoise avait fait preuve de davantage de poigne en avril 2023 en stoppant une manifestation. Ces fêtes sauvages ne sont pas tolérées sur notre territoire, avait-elle communiqué. La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, eux, sont assez tolérants ou du moins pragmatiques. Les raves sont plutôt bien acceptées, pour autant qu'elles ne troublent pas l'ordre public. La France réprime lourdement les raves illégales. Au-delà de 500 personnes, l'événement doit être déclaré au moins un mois en avance. Notez que la loi a été renforcée après les incidents de Redon en 2021 où de violents affrontements entre les teufeurs et la police avaient eu lieu. Mais la palme de la répression revient sans doute à l'Italie avec le décret-loi anti-rêve de 2022 du gouvernement Meloni. Le texte prévoit jusqu'à 6 ans de prison et 10 000 euros d'amende pour les organisateurs de fêtes illégales. Une loi qui avait provoqué l'indignation de l'opposition qui dénonçait la remise en cause de la liberté citoyenne.
Et notez encore qu'à Malraix, les incidents survenus samedi soir entre les forces de l'ordre et les festivaliers ont fait réagir la Fédération suisse des fonctionnaires de police dans un communiqué, et je cite, « Elle condamne avec fermeté les agressions dont étaient victimes plusieurs agents et exige que les auteurs soient traduits en justice. Des projectiles ont été jetés alors que la police a riposté avec du gaz lacrymogène des tirs de balles en caoutchouc. Les fêtards, eux, ont rejeté la faute sur la police en estimant avoir été victimes d'une attaque disproportionnée. » Les chemins de fer du Jura établissent leurs priorités pour l'avenir. Ils ont présenté aujourd'hui à Seignelay-Gier leur stratégie 2040. La démarche prévoit notamment de déployer 20 projets entre 2026 et 2030 avec l'ambition pour les CJ de devenir à terme un acteur majeur du transport public de l'arc jurassien. Tous les secteurs sont concernés avec la création d'un plan financier à moyen terme, le renforcement de la culture d'entreprise ou encore le développement des synergies avec des partenaires externes. Les CJ avaient besoin de nouvelles lignes directrices claire selon la présidente du conseil d'administration, Géraldine Beuchat.
Les habitudes des usagers changent, la technologie change, les demandes de l'extérieur de nos commanditaires évoluent. Donc, par rapport à tout cela, nous souhaitons renforcer, avoir une vision claire effectivement à l'avenir, horizon 2040. On souhaite continuer de faire des transports de marchandises, donc par le rail, on souhaite avoir plus d'offres, la renforcer. Donc c'est bien d'avoir tout un concept général qui soit évolutif pour pouvoir déployer, évoluer et tenir notre position de prestataire d'offres de transport public dans l'arc jurassien. Oui.
La stratégie 2040 repose sur trois axes prioritaires, le trafic régional de voyageurs, le transport de marchandises ainsi que le tourisme et les loisirs. Le document peut notamment favoriser la concrétisation d'un projet d'envergure, Arc Express, qui prévoit de relier directement par le rail de Lémont à La Chaux-de-Fonds. Le directeur des chemins de fer du Jura, Jean-Frédéric Piton.
Tous ces grands projets prennent beaucoup de temps. Et on sait très bien que finalement la concurrence entre les projets au niveau suisse sont très importantes. Et aujourd'hui, la Confédération doit économiser. Elle doit économiser quasi 20 milliards sur l'ensemble de ses idées de projets d'infrastructures, d'où Arc Press fait aussi partie. Et c'est clair, ce n'est pas Berne qui va porter notre projet. C'est à nous de porter notre projet pour notre région, pour le développement de notre région, l'économie et les habitants. Si on n'est pas derrière, ben le projet va disparaître. Et puis nous, on va être là pour que le projet il reste là et sera réalisé un jour.
Un sujet réalisé par Nicolas Meusy. Le Parlement fédéral vient de faire un pas important ce lundi soir vers une démocratie moderne. Après le Conseil des États en décembre, le Conseil national a autorisé par 124 voix contre 66 l'introduction de la récolte électronique de signatures pour les initiatives et les référendums. On commencera par des essais pilotes. La récolte de signatures à la main par support papier restera possible. Les droits modernes des citoyens ont donc progressé ce lundi. C'est ce que pense le socialiste vaudois Jean Tschop.
Je pense qu'il y a quand même un anachronisme. Aujourd'hui, il y a tellement d'activités qui se font en ligne, y compris des récoltes de pétitions d'ailleurs, qui récoltent plusieurs dizaines de milliers de signatures. Le PS en a encore lancé une récemment sur Gaza. Ce qui est très important en revanche, c'est de sécuriser absolument le e-collecting parce qu'il faut éviter toute cyberattaque. On parle de nos droits populaires et c'est quelque chose qu'on doit protéger à tout prix.
On va voter en septembre sur l'identité électronique. Ça, c'est le bon moyen de garantir la sécurité?
Je pense. C'est un moyen, en tout cas, de présenter un système éprouvé, de simplifier l'accès à certaines prestations. Pour le e-collecting, il faudra un système décentralisé, récolter le moins de données possible et un système sécurisé au niveau de la protection des données.
Des propos recueillis par Serge Jubin. L'UDC s'est opposé à la récolte électronique de signatures, estimant qu'il s'agit d'un acte militant et qu'il ne peut se faire qu'au travers des contacts physiques.
18h15 sur RJB.
RJB Sport.
L'équipe de Suisse de hockey sur glace sélectionne déjà 6 joueurs en vue des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. À 8 mois du début de la compétition, les défenseurs Roman Josi et Jonas Siegenthaler sont assurés de faire partie du voyage. Ils seront accompagnés des attaquants Nico Ischier, Timo Meyer, Kevin Fiala et Nino Niederreiter sous réserve de blessures. Fabio Christen, battu au sprint au Lac Noir, le cycliste argovien a pris le deuxième rang de la deuxième étape du Tour de Suisse cet après-midi après un parcours de 177 km entre Arreau et le lac fribourgeois. Il a été devancé par l'Italien Vincenzo Albanese. Le Français Romain Grégoire conserve son maillot jaune de leader. Et puis enfin, Rebecca Masarova déclasse Sofia Kenin à Berlin. La joueuse de tennis baloise a battu l'Américaine 6-3, 6-2 cet après-midi en 16e de finale du tournoi WTA de la capitale allemande. Elle affrontera en 8e la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Arina Sabalenka. Merci d'avoir été avec nous. Retour de l'info dans une petite quinzaine de minutes à 18h30. Très belle soirée. RJB